Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. En général, c'est plutôt son associée Justine que l'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux. J'ai donc voulu lui donner la parole. Il est le cofondateur de Respire, une marque de soins d'hygiène naturelle fabriquée en France, vegan et éco-responsable. Un déo sans aluminium, ça ne court pas les rues, donc allez jeter un coup d'œil sur leur site. Il est ce que l'on peut appeler un jeune entrepreneur, mais je pense que sa maturité va vous impressionner. Avec lui, on a parlé de la répartition des rôles entre associés hommes-femmes, de l'inconnu lié à l'entrepreneuriat comme source intarissable d'énergie, de ce qu'implique la position de Respire sur un marché extrêmement concurrentiel et occupé par des acteurs mastodontes, du processus de création produit bien spécifique de Respire, encore plus lorsqu'il est question d'hygiène, et de la nécessité de conserver son ADN tout en vivant une croissance rapide. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Thomas Méheux, cofondateur de Respire.
Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis ravie de te recevoir. Je vais te demander, si ça ne te dérange pas avant de révéler qui tu es, de te présenter en quelques mots, autant pro que perso, si c'est possible.
Oui, salut Estelle. Bah, merci de me faire signe pour ce podcast. Je m'appelle Thomas, j'ai 27 ans. Je suis le cofondateur de Respire, qui est une marque de personal care naturel et made in France. Donc, on vend des déodorants et d'autres produits d'hygiène. Et on anime une communauté de plus de 120 000 personnes sur les réseaux autour du corps humain. Je t'en parlerai peut-être après. Et moi, à titre personnel, ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat et dans la vie, c'est le goût de l'aventure. Donc, me dire que je me lance dans un projet où j'ai pas encore toutes les réponses, mais je suis dans l'action, je bootstrap, je me démerde pour aller contacter les personnes, récupérer des informations et construire un truc... à partir de rien, à part de la motivation, des idées et des gens qui m'entourent. Et pour le coup, je ne saurais que mettre en avant le travail de mon associé Justine sur Respire, qui fait un travail de dingue, bien sûr.
Juste avant qu'on démarre, je te demandais comment tu allais et tu me disais que tu avais une patate d'enfer. Donc moi, ça me fait plaisir quand j'entends ça en ce moment, parce que franchement, ça se fait rare. Donc j'aimerais bien que tu me dises pourquoi tu as une patate d'enfer.
Non, bah ça rejoint... je pense que c'est aussi parce qu'on est vendredi soir à 19h et que c'est bientôt le week-end. Mais ça rejoint un peu ce que je disais, c'est que là, j'ai la pêche parce qu'il y a plein de trucs qui bougent dans la boîte. Il y a des nouvelles informations qui arrivent dans tous les sens. Donc, c'est un peu comme un jeu de société où, en fait, tu lances les dés, tu tires des cartes. Parfois, tu as des cartes, tu vas à la case prison. Parfois, tu as des cartes chance, tu as des trucs qui t'arrivent, tu as des connexions, des gens que tu avais rencontrés il y a 3 ans qui, en fait, resurgissent et peuvent te mettre en relation avec une autre personne. Donc, c'est ce goût-là, en fait, de l'inconnu qui m'excite. Et en ce moment, il se passe plein de trucs chez Respire. Donc, voilà pourquoi j'ai la pêche.
Et surtout, moi, j'ai constaté un truc, c'est plus on se bouge et plus ça bouge, en fait.
Exactement.
Donc, c'est aussi une histoire de dynamisme et d'action, parce que quand t'es dans l'action, il se passe forcément plus de trucs que quand tu restes inactif.
Ouais, absolument. Et là-dessus, ça me fait penser à Steve Jobs. Bon, c'est un peu cliché, mais dans son bouquin, il insiste vachement sur un terme qu'il appelle connecting the dots, où en fait, il explique que...
Un point mène à un autre, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est, à un moment présent, t'as pas forcément toutes les réponses, et que c'est a posteriori, rétrospectivement, que tu te rends compte. Ah, ok, en fait, c'est ce truc-là qui m'a permis d'arriver là, mais il faut pas essayer de chercher toutes les réponses tout de suite, quoi.
Exact. On voit beaucoup Justine, mais moi, j'étais intéressée à l'idée de t'interviewer. D'abord parce qu'on a fait la même formation et que moi, je suis toujours ravie de faire parler des gens qui ont fait aboutir des beaux projets à l'issue de cette formation qu'on a en commun. Mais on voit beaucoup Justine, donc on a compris que Justine était ton associée et était un petit peu la tête de proue du marketing, ou en tout cas portait la marque en termes d'image. Mais moi, j'ai eu envie de t'interviewer toi, parce que t'es un peu plus dans l'ombre, alors certainement volontairement aussi, parce que vous devez avoir une répartition des tâches très précise. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours rapidement? Je sais que t'as eu une boîte avant,
Oui.
Qui n'avait rien à voir avec, avec ce domaine-là. Et que finalement, t'es encore relativement très, très jeune. Donc, tu as démarré super vite, en fait.
Oui.
Juste après ton école, non?
Oui, c'est ça. Bah, moi, je suis parti en Angleterre faire une université business. Et je suis revenu à Paris faire un master entrepreneur parce que j'avais très envie de monter ma boîte, mais j'avais pas d'idée, pas de réseau, pas d'associés. Et donc, je me suis lancé un petit peu bille en tête dans la création d'une boîte, dans les logiciels B2B, tech, on va faire de l'analyse de données, alors que je connaissais pas du tout ce domaine-là, mais comme HEC entrepreneur, on t'enferme un petit peu, de cette manière, on te dirige vers des projets très tech, parce que c'est quand même ça qui fait partie des grandes réussites entrepreneuriales. Je suis parti là-dedans, j'ai adoré ce moment, mais un an et demi après, un an et demi, deux ans, j'ai eu la chance de revendre la boîte, et rétrospectivement, tu vois, on revient en connecting the dots, je me rends compte que j'étais pas tout à fait à ma place dans cet univers très froid du B2B tech, et qu'en fait, moi, ce qui m'animait le plus, c'était plutôt la partie B2C, les marques, les consommateurs, parler aux gens, quoi. Je trouvais ça un petit peu plus humain. Et donc, c'est ça qui m'a amené à créer Respire avec Justine. C'est, voilà, l'envie de créer une marque, et je voyais, aux États-Unis, s'est développé à l'époque le modèle direct to consumer avec tout ce qui est digital brand, où en fait, tu avais des marques en très peu de temps qui arrivaient sur des marchés un peu poussiéreux et qui arrivaient à prendre des parts de marché de manière très rapide parce qu'ils savaient parler aux consommateurs et distribuer en direct, etc.
Ouais. D'autant qu'en plus, vous êtes un succès rapide. On peut appeler ça une croissance rapide ou pas?
Alors oui, une croissance rapide, oui, clairement, un succès seul.
La boîte n'existe pas depuis pas très longtemps, si je ne m'abuse, non?
Alors, ça fait un an et demi qu'on a lancé officiellement, mais avant ça, on a fait un crowdfunding il y a deux ans, quasiment jour pour jour. Donc voilà, on peut dire que ça fait deux ans qu'on a lancé.
D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles de justement de votre stratégie, parce que il y a un truc qui est quand même super important, alors le terme fait un peu barbare pour des gens qui ignorent ce terme et qui sont pas forcément dedans. Moi, j'ai bossé un peu dans le retail, donc je sais ce que ça implique comme choix et à quel point ça peut être compliqué. Mais vous êtes une marque, ce qu'on peut dire, omnicanal. Peut-être pas omnicanal parce que vous avez pas de boutique physique. Sauf erreur de ma part, vous avez des points de relais qui sont Monoprix, bientôt Sephora.
Exact.
Je crois qu'il y en a 1500 ou 1800, je sais
exact,
pas.
Enfin, c'est ça.
Total, ouais. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est techniquement parlant, au début, vous étiez deux. C'était quoi les premiers réflexes entrepreneuriaux que vous avez eus au tout début? C'est-à-dire, je sais que Justine était très sportive, très attachée à sa communauté, elle avait déjà une marque coexistante. Enfin, en tout cas, elle était une sorte de marque où elle avait une communauté. Mais indépendamment du crowdfunding, etc., quelles ont été les premières étapes, tu vois, les toutes premières étapes de Respire?
Bah, c'est intéressant parce que tu dis indépendamment du crowdfunding, mais en fait, le crowdfunding est une manifestation de la chose la plus importante, en fait, sur laquelle on s'est focalisé au début et encore aujourd'hui, c'est la communauté. Donc, oui, on était deux, mais en réalité, on avait déjà la communauté de Justine qui la suivait beaucoup et on s'est attaché en fait à fédérer des gens qu'on connaissait pas personnellement autour de la marque et pour le coup ça c'est une conviction qu'on a avec Justine, c'est que les marques modernes aujourd'hui qui réussissent, c'est des marques qui sont proches de leur audience et donc on s'est attaché dès le début à fédérer des gens. Donc ça prenait la forme, c'était tout court au début, hein. On faisait venir les 3-4 personnes qui étaient motivées pour discuter de notre projet sur les réseaux sociaux, on les faisait venir dans notre espace de coworking, on réfléchissait avec eux, quels sont les produits que vous avez en tête, selon vous le déodorant, parce que c'était notre premier produit, quelle taille est-ce qu'il faut qu'il soit, quel parfum, quelle étiquette, etc. Et en fait, ce groupe-là qu'on appelle le Respire Club, et d'ailleurs on se réunit toujours sur WhatsApp pour échanger sur les projets, il a grossi et en fait on a élargi la communauté. Aujourd'hui, il y a 120 000 personnes qui nous suivent sur Instagram,
j'ai vu, ouais.
80 000 sur LinkedIn. Et c'est des gens, en fait, qu'on a réussi à intéresser parce qu'on essaye de les impliquer. Donc, le crowdfunding, ça a été un bon exemple. C'est eux qui nous ont permis de financer la première production, mais aussi dans les développements produits, dans le marketing, dans les événements, on les fait intervenir. On essaye de montrer les coulisses de la marque. Et c'est ça qu'ils aiment, à mon avis, c'est qu'ils s'approprient un peu l'aventure. Respire leur appartient aussi un petit peu à eux. Et voilà, je pense que si on devait retenir une seule chose de notre stratégie, plus que notre stratégie, c'est une conviction, c'est vraiment la communauté, les faire participer, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que t'as eu ce déclic, toi, avec Justine au tout début? Pourquoi vous avez monté la marque ensemble?
Bah, c'est un une moitié de son histoire personnelle et une moitié de la mienne
pour, ça, oui, je sais, ouais.
Pour Justine, alors grande sportive, elle s'est mise à la course à pied, elle a commencé à le raconter sur les réseaux sociaux et a réussi à fédérer une communauté. Et puis elle a eu un petit pépin de santé qui l'a amenée à prendre conscience que son corps était capable de plein de choses, mais aussi était fragile. Et donc elle a voulu mieux manger et faire attention aux produits qu'elle s'appliquait sur la peau, et notamment les déodorants, les crèmes, etc. Et en fait, on s'est dit, on veut créer une marque ensemble, on veut tirer parti de cette communauté. Elle a eu un pépin de santé. Pourquoi est-ce qu'on ne bosserait pas sur le déodorant, en fait, sur les soins d'hygiène, qui sont des soins qu'on utilise tous les jours. Et en fait, si tu regardes, il y a peu de produits que tu utilises autant qu'un déodorant ou qu'un produit d'hygiène, quoi. À part peut-être ton portable ou ta voiture si tu es sur la route. Mais c'est tous les jours, pendant 80 ans, tu vas te mettre des produits sur la peau, etc. Donc, le sujet nous semblait assez important pour s'y pencher. Et moi, de mon côté, c'est un peu ce que j'ai raconté au début, c'est que j'avais envie de me lancer sur une marque. C'est plus l'aspect business qui m'intéressait et que j'étais touché par l'histoire de Justine. Et c'est ça qui m'a motivé. Mmh.
Comment se passe l'association ?
Très, très mal.
C'est un peu cash. Non, mais ce que je veux dire, c'est... ça a été hyper naturel pour vous, la répartition des tâches, qui fait quoi, etc. Enfin, quand on vous regarde de loin, parce que je connais pas du tout Justine, mais je parle vraiment de ce que j'ai pu voir en préparant ton interview, hein, mais on a l'impression que vous êtes très, très fusionnel tout en étant sur des terrains différents. Enfin, moi, je suis assez curieuse parce que beaucoup d'entreprises se créent aujourd'hui sur des modèles d'association de 2 personnes, 3 personnes, voire plus. Mm-hmm. Je suis assez curieuse de savoir, est-ce que ça s'est fait naturellement? Est-ce que ça s'est fait après plusieurs essais? Enfin,
ouais.
Tu vois, est-ce que selon toi, il faut que ce soit complètement fluide ou est-ce qu'il y a des réglages? Enfin, ça, des réglages, il y en a toujours, mais voilà, de ton expérience à toi, comment ça s'est fait?
Bah, écoute, déjà, je suis très content si de l'extérieur, on a l'impression que ça fonctionne bien parce que effectivement, c'est le cas, ça fonctionne très bien et c'est une des clés de succès, à mon avis, de Respire jusqu'à présent. Hein. Ça donne pas garantie pour l'avenir, mais jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Et en fait, tu as raison, on est très complémentaires. Et pour le coup, ça, j'ai tiré de mon expérience, de ma première expérience entrepreneuriale, l'idée que des associés doivent quand même être complémentaires pour pas se marcher dessus. Dans la première boîte, on était 4 et il y avait pourtant 2 ingénieurs et 2 business dont je faisais partie. Mais on discutait de tous les sujets ensemble. Alors, intellectuellement, c'était très intéressant. Mais en fait, on perdait beaucoup de temps à se mettre d'accord. Voilà. Donc, avec Justine, en fait, on s'est dit dès le début, Justine, ça va être la phase de l'entreprise, c'est son histoire personnelle qui a inspiré la boîte. Elle va être sur le terrain à rencontrer les gens, à se faire remonter un peu les feedbacks de la communauté. Et moi, j'étais plus sur l'aspect business, les chiffres, les opérations. Bon, ça, c'était au début. Maintenant, ça a évolué. D'accord. On est 25 dans la boîte. Donc, il y a toute une équipe maintenant qui gère la plupart des sujets avec nous. Mais on garde quand même cette espèce de séparation. Justine est quand même plus la personne qui va rencontrer les gens. Et quand je dis rencontrer les gens, c'est à la fois nos communautés, nos distributeurs, nos partenaires logistiques, etc. C'est l'image, la voix de Respire. Moi, je suis plus sur la partie back-end, entre guillemets, à m'assurer qu'on met les moyens nécessaires, on a les moyens nécessaires pour réaliser nos ambitions sur l'aspect financier, l'aspect opérationnel, les développements de produits, etc.
D'accord. Comment t'as vécu la période là? Est-ce que ça ne vous a pas impacté, bien au contraire, n'est-ce pas, le fait qu'il y ait eu un confinement et le Covid, puisque la grande majorité de votre chiffre, vous le faites sur Internet quand même, non?
Alors, ça nous a impacté négativement et positivement. Positivement parce qu'effectivement, les gens se sont trouvés à davantage commander en ligne et donc ça a vachement boosté nos ventes online. Et pas seulement nos ventes d'ailleurs, mais sur nos réseaux sociaux, on sentait que les gens avaient plus de temps à passer, à suivre nos lives de sport, à répondre à nos questions. On a organisé ce qu'on appelle un respeech, c'est permettre aux entrepreneurs en herbe de pitcher leurs projets sur notre compte Instagram. Donc, on a fait plein de choses pour les engager et ils ont répondu présent. Ça, c'est plutôt l'aspect positif. Et l'aspect négatif, c'est quand même qu'on a certains distributeurs partenaires qui ont fermé. L'exemple, c'est Sephora, qui fait pas partie des magasins considérés comme vendant des produits essentiels. Donc, ça a quand même eu un impact, puisqu'ils n'ont pas pu, pendant ce confinement-là, écouler leur stock qu'on leur avait livré.
Forcément. Oui, donc, excuse-moi, j'ai peut-être loupé un épisode, mais donc, du coup, vous êtes majoritairement, le chiffre, il se répartit comment? le retail, c'est très important pour vous ou
Oui, c'est important. Ça varie selon les mois et les confinements, parce qu'on a déjà eu deux.
Ouais.
Mais en gros, c'est 50-50, quoi.
D'accord, ok. Quelles ont été les étapes? Est-ce que tu sens qu'il y a eu des difficultés? Parce que oui, c'est quand même ça que je ressens. C'est qu'on dirait que tout est simple chez vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On dirait que non, mais franchement, j'ai été frappée par ça parce qu'en fait, c'est bon. D'abord, c'est une boîte jeune. Donc, quand je dis jeune, attention, c'est pas péjoratif du tout. Mais je veux dire, en termes de, vous avez pas 25 ans d'histoire. Mais on a quand même le sentiment que tout est hyper easy. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, ouais. Bah, alors,
et moi, j'aimerais juste savoir s'il y a eu des épreuves, des grosses difficultés ou des choses, tu vois, même si effectivement le temps est court.
Ouais.
Enfin, le depuis la création. Mais est-ce que, voilà, t'as ressenti des grandes étapes de difficultés?
Ouais. Bon, la première chose, c'est que, effectivement, si je prends un peu de recul, je me dis que j'ai beaucoup de chance parce qu'on n'a pas eu de grosses merdes, et que je vais y venir, même si on a des épreuves, etc. Globalement, on se développe vite. On prend du plaisir à bosser ensemble, on avance. Et donc, voilà, si on prend l'exemple du confinement, c'est sûr qu'on n'est pas dans la restauration où des gens sont beaucoup plus impactés et pour le coup, ça doit être très dur. Donc, je mesure un peu la chance qu'on a. Après, est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. On est sur un marché ultra concurrentiel avec des géants qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui connaissent mieux le marché que nous, etc. Donc, on a peu de moyens, on essaie de faire avec. Parfois c'est un avantage parce que je pense que les consommateurs recherchent aussi le local, les petites marques, les discours authentiques, donc ça c'est un avantage pour nous. Et parfois c'est plus difficile parce qu'on a moins de moyens et moins d'expérience, et ça arrivait de faire des grosses erreurs, notamment sur la partie logistique. Au début on avait privilégié un logisticien en fait qui nous faisait des super prix, et on s'est peu soucié de son background et de ses capacités à livrer des colis, et on s'est retrouvé avec des énormes problèmes de livraison, à devoir recontacter tous nos clients un par un à peu près à notre lancement, et là c'était vraiment un mauvais moment. Voilà, c'est un exemple, mais parmi tant d'autres, rien que cette semaine, on a eu 10 situations de crise, on vient de lancer un produit, on a des problèmes d'approvisionnement produit. Les problèmes ils surviennent toujours, même si ils sont moins visibles sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait davantage les montrer, parce que on essaie d'être le plus authentique et le plus transparent possible. Mais je tiens à te rassurer, j'ai mon lot de problèmes à gérer.
Non, mais j'en suis sûre. Mais c'est justement ça, c'est-à-dire que vu que vous êtes sur une production de que vos produits sont axés sur, comme tu le dis, de l'authenticité, quelque chose de green, de bon pour la santé, etc. Moi, quand je vous ai regardé, j'ai eu envie de me dire, mais attends, vous voulez pas nous raconter votre histoire au quotidien en tant qu'entrepreneur? Parce que finalement, il y a plein de gens qui vont s'identifier à vous. Vous êtes, à mon avis, aussi hyper inspirant pour votre génération, à savoir ceux qui ont à peu près vos âges, à savoir 25, 27 ans, moins de 30 ans, on va dire. Voilà, il y a un aspect entrepreneurial, je trouve, qui est intéressant à mettre en lumière. Mais après, ça, c'est mon point de vue. Et indépendamment de ça, oui, attends, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est se mesurer à des colosses et à des gens qui sont sur le marché depuis bien plus longtemps que vous. Ça vous a pas fait peur a priori, donc tant mieux. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi?
À la fois, moi je suis très admiratif des entreprises qui durent. On a tendance à l'oublier, et quand je vois un L'Oréal qui se fait, ou un Unilever qui se fait taper dessus parce qu'ils ont pas tout fait parfait... certes, sous certains aspects, c'est justifié, mais je ne peux qu'admirer la longévité de ces boîtes qui ont réussi à se réinventer d'époque en époque. Les tendances changent, etc. Et quand on voit le nombre d'entreprises, de startups qui se cassent la gueule après 3 ans, 5 ans, 10 ans, quand on a des boîtes qui sont leaders et en plus françaises sur un marché depuis 100 ans ou presque. Bah, je me dis qu'ils ont quand même, peut-être compris quelques trucs au business. Voilà, donc ça m'évoque ça. Et puis, en même temps, moi, je reste persuadé que des petites boîtes, et nous, notre cas, notre ambition, c'est de rester une petite équipe, a cette agilité, cette proximité avec sa communauté que eux n'ont pas, parce que forcément, quand tu grossis, tu dois mettre en place des process, c'est indispensable. Et donc, tu perds un petit peu la réalité et l'agilité que tu as quand tu es petit. Donc, ce que ça m'évoque aussi, c'est que je pense qu'on a, nous, petite marque, une énorme carte à jouer pour aller chercher des parts de marché, parce qu'on est plus pertinent sur certains aspects, notamment le digital, que ces grosses marques qui mettent du temps à bouger. Alors après, il faut pas se leurrer non plus. c'est pas des gens totalement idiots. Au contraire, ils rattraperont leur retard comme ils l'ont fait sur les dernières tendances, sur les 20, 30 dernières années. Mais je pense que on a quand même une sacrée carte à jouer pour se faire écouter de la part des consommateurs, quoi.
D'autant que vous pouvez être racheté par ce genre de, enfin, ça fait partie des possibilités. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui finalement, plutôt que de le développer en interne, se décident à racheter des marques émergentes comme la vôtre.
Oui, on l'a vu ces dernières années. Il y a eu plein de deals de la part de grosses boîtes qui se sont dit, bah, au lieu d'aller tout développer from scratch, pourquoi est-ce qu'on dirait pas directement récupérer ce qui marche bien? Nous, dans le cas, la question se pose pas du tout. On a même pas 2 ans d'existence. On a un boulevard devant nous. Tous les chiffres sont au vert. Donc, c'est pas du tout le sujet de se dire est-ce qu'on s'est racheté ou pas. Pour l'instant, on est avec notre communauté, on trace notre chemin et je sais pas ce qui se passera dans 5 ans puisque ça fait même pas 1 an et demi qu'on existe.
Ouais, oui. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Enfin, on vous a tellement vu et on vous voit tellement et qu'on a l'impression que la marque, en fait, existe depuis 10 ans. C'est ça qui est fou.
Écoute.
Comment ça se passe, vos recherches? Parce qu'alors, attends, vous étiez 2 au départ, vous avez grandi très vite, vous êtes une 20aine, c'est ça maintenant?
25, oui.
Vous développez vos productions en interne, je suppose. Enfin, c'est-à-dire que les
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je cherche produits, bureau d'études, entre guillemets, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais tout est fait en interne. Vous avez des gens qui sont scientifiques dans vos équipes?
Alors, c'est une bonne question, et d'ailleurs, une question qu'on nous pose souvent. C'est un mix des deux, en fait, le développement produit. C'est-à-dire que le process, comment ça se passe, ça part de nous et de la communauté. Donc, en fait, on se pose et on se dit, bon, quel prochain produit est-ce qu'il faut qu'on sorte? Et pour le coup, comme je disais au début, le premier réflexe, c'est d'aller voir la communauté. Donc, on fait venir les gens de notre Respire Club, on envoie des typeforms pour demander leur avis. Et une fois qu'on a des réponses...
Vous faites tout le temps.
Ouais, tout le temps. Tu peux voir sur les comptes Instagram, etc. À chaque fois, on pose la question à la communauté parce que c'est vraiment ça qui guide nos choix.
Et il y a combien de personnes dans le Respire Club, excuse-moi?
On est sur un petit groupe, on est 50aine, grand max, quoi.
D'accord. Voilà. OK.
Et une fois qu'on est assez clair sur les produits qu'on veut développer, en fait, là, on fait appel à des laboratoires partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que c'est pas Justine et moi dans notre cuisine qui font notre tambouille pour essayer de trouver un produit magique. C'est non, on s'appuie quand même sur des laboratoires qui ont des décennies d'expertise dans la formulation produit. Donc, il y a des tas de professionnels, des scientifiques, des chimistes, etc. Pour développer nos produits. Et on a la chance d'avoir grossi rapidement. Donc, on a accès aux meilleurs laboratoires. En plus, on est en France. On a de la chance. C'est quand même une terre plutôt favorable à la création des cosmétiques et des soins. Et en plus de ça, parce qu'on est quand même sur un segment de marché qui est hyper exigeant en termes de formulation produit, d'innocuité, de performance, on fait appel à des professionnels, donc des pharmaciens, des professeurs d'université qui sont un peu plus capés que nous, qui ont un peu plus d'heures de vol que nous sur le sujet, pour nous conseiller et s'assurer qu'on a des formules qui sont à la fois super clean, mais en même temps hyper sensorielles, quoi. Le but, c'est pas de faire des produits qui sont super clean, mais dont on prend pas beaucoup de plaisir à utiliser, quoi. Un shampoing, il faut que ça mousse. Un dentifrice, il faut qu'on ait une haleine fraîche de menthe. Donc, on met un point d'honneur à avoir des produits clean, mais aussi hyper efficaces, quoi.
Et en termes de contraintes, justement, c'est intéressant de savoir, d'avoir ton point de vue là-dessus. Les contraintes sanitaires que vous avez, elles sont immenses, elles sont colossales, c'est des grosses barrières à l'entrée. Elles sont européennes, elles sont comment?
C'est une bonne question. Alors, il faut savoir que tous les produits qui sont mis sur le marché en France sont soumis à un test indépendant fait par un toxicologue. Et qu'il y a une, comme tu dis, il y a une conformité européenne à avoir. Donc, quand on met sur le marché un produit, on le met en France et en Europe. Donc, on doit déposer la formule sur un portail sécurisé, etc. Donc, ça rigole pas du tout avec ça. Et avant ce dépôt, il y a une batterie de tests à passer pour s'assurer que le produit n'a pas d'impact négatif sur le corps. Exemple. Test de stabilité, s'assurer que le produit, dans des conditions un peu extrêmes, par exemple sous 50 degrés de chaleur,
ne va pas exploser,
va pas créer des microbes, etc. Pareil pour test de compatibilité, donc s'assurer que ton contenant n'interfère pas négativement avec ton contenu, donc pour employer des termes plus simples, ta formule avec ton packaging, j'en sais rien, il se peut que un ingrédient dans ta formule réagisse mal avec l'aluminium de ta boîte de dentifrice, hein, puisqu'on vient de sortir d'un dentifrice solide, et que voilà, donc bon, il y a une batterie de test hyper important, donc en gros le produit qu'on met sur le marché, c'est un produit qui est safe, et nous on va en plus loin, on va plus loin que la réglementation, on a une blacklist d'ingrédients qu'on n'utilise pas parce qu'elle est controversée, on n'est pas des chercheurs au CNRS, on n'est pas les plus grands spécialistes, donc par mesure de précaution, on enlève tous les ingrédients qui sont controversés, et ça sera à la science de juger dans quelques années si oui ou non c'était un ingrédient qui était raison d'être controversé, mais nous on l'enlève.
Est-ce que tu peux me dire si l'aluminium est un problème ou pas?
Donc tu parles des sels d'aluminium dans les déodorants qui sont très décriés. C'est un débat qui fait rage dans la profession. Personne n'est d'accord. Ce qui est sûr, c'est que la zone des aisselles est une des zones de la peau les plus fragiles, qui est en contact directement avec des organes vitaux du corps. Et c'est aussi une surface de la peau qui est très poreuse, en fait. Donc, tout ce que tu t'appliques, ça rentre dans ton corps.
Rentre dans ton corps, en fait.
Voilà, exactement. Donc, très bon exemple pour illustrer un peu notre philosophie chez Respire. Il y en a qui disent que c'est controversé, que c'est nocif. D'autres qui disent que c'est totalement safe. Nous, par mesure de précaution, on enlève les sels d'aluminium. C'est pas notre sujet de savoir à très court terme est-ce que c'est bon ou c'est pas bon, on enlève, c'est tout.
Ouais, dans le doute, on retire.
Exactement. Better safe than sorry.
Tu m'étonnes. Mais c'est évident. Non, mais moi je lutte pour essayer. Enfin, avant vous, je trouvais dingue de devoir éplucher les rayons pour trouver un truc sans aluminium. Moi, je suis convaincue que c'est pas bon. Mais après, ça, c'est une conviction personnelle. Je passe du coq à l'âne, Thomas. Vous avez fait une levée de fonds récemment ou pas?
Alors, on s'autofinance depuis le lancement. Et ça, on le fait parce que grâce à la communauté, en fait, qui nous soutient. Mais avant,
c'est-à-dire?
En fait, en achetant un produit Respire, ça nous permet de réinvestir.
Oui. Voilà. D'accord, ok.
Et avant le lancement, on a fait trois choses en réalité. On a mis un peu d'argent de notre poche avec Justine. On a fait ce crowdfunding qui nous a permis de financer la première prod. Et encore une fois, c'est la communauté qui nous a permis de faire ça. Et trois, on a fait une petite levée de fonds de ce qu'on appelle Love Money, quoi, auprès de quelques business angels qui nous ont permis d'acheter en fait du stock et de recruter les premières personnes pour rejoindre l'équipe.
Ok. Les prochaines étapes pour toi, mis à part toujours du développement produit, etc., vous pensez à l'international, je crois, non, quand même?
Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que ça met des étoiles dans les yeux de te dire que tu vas pouvoir lancer ta marque dans plein de pays, etc. Et d'ailleurs, on est déjà à travers Sephora dans une dizaine de pays européens. Mais il faut savoir raison garder. Et en réalité, c'est une erreur de partir bille en tête à l'international quand tu n'as fait que scratcher la surface du marché français. Donc,
je suis ravi de te l'entendre dire parce que beaucoup trop de gens partent à l'international et se plantent.
Bah ouais, la France est un marché gigantesque. Donc peut-être que dans le petit milieu parisien, on commence à être visible et j'en suis ravi. Mais il reste tellement de choses à accomplir en France pour aller convaincre les gens de passer à Respire que la priorité pour 2021, ça sera de rester en France.
Très bien. Bah écoute, je suis pas du tout chauvine, hein, c'est pas le chauvine de manière négative, mais je trouve ça très bien parce que j'ai vu trop de gens se planter en voulant aller faire ce qu'on appelle scale-up à l'étranger.
C'est tentant.
Ouais, c'est pas un entretien du tout de fonds d'investissement, mais est-ce que tu vois des zones de danger pour toi? Alors après, tu me dis uniquement ce que t'as envie de me dire. Je te demande pas de me révéler des secrets de guerre, hein. Mais en gros, est-ce que tu as parce que toutes les boîtes du monde ont des zones de faiblesse et d'autres et des forces. Ouais. Sans pour autant, tu me dis pas si tu en vois et que tu veux pas en parler, mais est-ce que tu vois des zones de faiblesse sur lesquelles tu es déjà en action? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà cerné les zones de faiblesse de votre boîte? Et tu te dis là-dessus, OK, on met ça en place et comment on va le faire, quoi?
Il y en a plein, des zones de danger, tu navigues dans un champ miné. Mais Mais s'il y a un sujet, moi, qui m'obnubile et qui m'intéresse particulièrement, c'est me poser la question de comment est-ce qu'on va grossir tout en restant très fidèle à notre ADN de départ. Parce qu'en fait, et on le voit bien d'ailleurs sur les boîtes un petit peu plus matures que nous, je pense notamment aux slips français, qui ont des valeurs incroyables, et bah, je sais pas comment, mais automatiquement, quand tu grossis,
tu les perds.
Bah, ouais, en fait, bah, tu peux avoir tendance à les perdre. En tout cas, c'est l'impression que les gens peuvent avoir, se dire, ah, mais ça y est, Respire ou le slip français, ils ont grossi, c'est plus la plus petite marque mignonne, portée par Justine Thomas, les fondateurs. Maintenant, il y a une grosse équipe, ils ont des moyens. Donc, ça y est, entre guillemets, ils sont un peu vendus, ils sont dans l'industrie et c'est plus aussi authentique, quoi. Donc, moi, mon sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour conserver ces valeurs, cet ADN et le montrer, quoi. Parce que le but, c'est vraiment de rester proche d'une communauté tout en ayant des rêves de développement. Ça, c'est sûr. Notre ambition, c'est de grossir. C'est pas de rester une petite marque parce que on pense que notre message a mérite d'être partagé par plus de gens. Mais voilà, grossir tout en restant fidèle à nos convictions de départ et être capable de le communiquer auprès de notre communauté, quoi.
Mon ancien patron, il me disait grandir et non pas grossir.
Voilà.
Déjà là, je trouve que c'est pas mal parce qu'en fait, tu conserves, c'est pas comme si tu t'empâtais d'un coup, tu vois, tu grandis donc en conscience. Et t'as des éléments de réponse ou pas du tout, ou tu...
Bah oui, on est vigilant à ça. C'est pour ça que Justine, elle est beaucoup sur le terrain. C'est D'accord. pour s'assurer qu'on prenne en permanence le pouls de ce qui se passe, à la fois dans notre communauté, à la fois chez nos prospects, à la fois dans les tendances de fond. Donc, volontairement, on veut rester une petite équipe. On veut rester très horizontal dans notre hiérarchie pour que même Justine, même moi, on soit encore très au fait de ce qui se passe, entre guillemets, en bas, de manière très opérationnelle, quoi. Voilà.
T'es encore dans le feu de l'action du démarrage d'une entreprise, mais est-ce que t'as des conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui se lancent, tout comme toi, dans leur vingtaine?
Ouais, effectivement, je suis jeune, donc je sais pas si j'ai des conseils à donner.
Ouais, mais c'est ça qui est sympa, moi, je trouve, parce qu'à chaque fois, tu sais, on écoute des gens qui ont 40 ans d'expérience, 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. Mais je me dis, en fait, finalement, c'est ceux qui sont dans le feu de l'action qui peuvent, tu vois, donner des trucs assez concrets aussi.
Oui. Bah, moi, en tout cas, les discours qui m'ont plu quand j'étais encore au tout début. Et en fait, c'est quand t'es au tout début que t'as le plus de doutes, quoi, parce que t'as le moins de convictions, t'as moins de preuves que l'entrepreneuriat est fait pour toi, etc. C'est qu'en fait, c'est suivre ton cœur, quoi. Et moi, je me rends compte à posteriori que j'avais envie de plein de choses, j'avais des grands rêves, etc. Et en même temps, j'étais un peu flippé parce que je connaissais rien aux cosmétiques, je connaissais, voilà. Et donc, pour moi, une grande force, c'est de se dire, j'ai des rêves et j'ai l'énergie. Et c'est un peu ce que je disais au tout début en citant Steve Jobs, mais pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Le simple fait d'avoir une flamme en toi, une motivation et l'envie de faire un truc, même si tu sais pas très bien ce que c'est, bah pour moi ça suffit à te faire avancer à l'étape d'après. Voilà, c'est la marche d'après. Et ensuite, quand tu seras arrivé à l'étape d'après, bah tu rencontreras quelqu'un qui te présentera quelqu'un d'autre qui te permettra d'avancer, etc., etc., etc. Donc je pense qu'on vit à une époque assez sympa où globalement ça coûte beaucoup moins cher de lancer sa boîte. Ça veut pas dire qu'elle marchera, mais ça coûte moins cher de la lancer. Il y a plein d'outils pour essayer de trouver des réponses à ces questions, de solliciter les consommateurs, mettre un peu de budget en acquisition pour voir comment les gens réagissent, etc. Donc, si les gens ont cette envie-là en eux, je trouve que ça coûte moins cher, ça prend moins de temps. Et si on se casse la gueule et qu'on a perdu un an, ben en fait, on n'a pas vraiment perdu un an, je pense. On aura appris beaucoup de choses.
T'avais des entrepreneurs dans ta famille?
Non, j'ai pas d'entrepreneurs dans ma famille, non. Mais si tu me permets ce petit parallèle, j'ai trouvé une famille d'entrepreneurs à HEC Entrepreneurs où je trouve qu'une des grandes réussites de ce master-là, c'est d'avoir cet esprit familial où tu te sens, en fait, rapidement chez toi et tu te dis, bah, en fait, si j'aime bien ces gens et que ces gens-là sont entrepreneurs, peut-être que moi aussi, je peux l'être, quoi.
T'as raison. Thomas, je pose toujours trois questions similaires à tous mes invités en fin d'interview. c'est ta vision de la France au sens général, enfin au sens global. Question ouverte, très ouverte, hein, je concède. Ouais. Quel feeling tu as à l'égard de notre beau pays?
Bon, il y a plein de choses qui me viennent, donc je ne sais pas si ma réponse sera très structurée.
C'est pas grave.
Il y a deux choses, en fait. Il y a un, le confinement et le Covid nous a obligés à rester sur le territoire. Et en fait, bon, il y a eu plein de mauvaises choses qui en découlent. Mais une des bonnes choses, c'est quand même que... moi, j'ai repassé un peu plus de temps en France. J'ai passé des vacances en France. Et je trouve que si tu sors de Paris, il y a quand même des trucs super cool à faire. Et les gens sont sympas. Et les restos sont bons. Et donc, tu vois, je trouve que le patrimoine culturel français est ouf et ça fait du bien de repasser un peu de mon France et je pense qu'on a beaucoup de chance.
Je suis d'accord.
Voilà. Et la deuxième chose à laquelle ta question me fait penser, c'est plutôt la jeunesse. Alors, j'ai pas 30 ans, mais j'ai une petite sœur qui a 18 ans et ça me fait assez marrer de voir que sa génération a des codes différents des nôtres, culturels. Mmh. Tu vois, elle écoute du rap, moi j'écoutais pas de rap, elle se fringue d'une certaine manière, moi je me fringue. Donc d'une certaine manière, j'ai un peu pris mon premier coup de vieux, tu vois, en voyant. Et ce changement aussi, il s'opère aussi, je trouve, dans les valeurs de leur génération. Et je vois ma sœur qui est beaucoup plus sensible aux questions de l'environnement que l'a été notre génération. Qui est beaucoup plus sensible aux enjeux sociétaux, le féminisme, etc. Et je trouve ça ouf de voir que des personnes de 18 ans, mais même 15 ans, j'ai d'autres exemples en tête, et ça un peu dans leur ADN, dans leur logiciel de base, alors que nous, ça a été quelque chose qu'on a découvrir dû comprendre et qu'on a dû découvrir, quoi. Et donc, ça me remplit d'espoir aussi pour la suite, quoi. Je me dis que les prochaines générations seront encore plus responsables que la nôtre.
J'espère.
Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord?
Non, moi, je suis d'accord avec toi, d'autant qu'en plus, si tu veux, je pense qu'il y a un paramètre, c'est qu'ils ont un accès à des informations auxquelles nous, on n'avait pas accès. C'est-à-dire que dans le positif comme dans le négatif,
oui.
Donc ça peut les angoisser, les surangoisser, parce que la jeune génération, du coup, est quand même très, très, très en prise avec des problématiques qui, moi, en tout cas... moi, je me sentais préservée, tu vois, d'une certaine manière. Bon, moi, je suis nettement plus vieille que toi, mais à 17 ans, j'étais un bébé. C'est-à-dire que j'avais pas du tout de notion du monde qui m'entourait. Je savais pas ce que c'était qu'une marque. Je savais pas plein de choses. Eux, si tu veux, ils sont très adultes très vite. C'est ça, en fait, qui me perturbe pour eux. Alors, dans le côté positif comme négatif, hein, parce que c'est formidable. Mais je trouve qu'ils grandissent très vite, tu vois. Enfin, en tout cas, qu'ils doivent prendre conscience de plein de choses très, très rapidement.
T'as des enfants?
Ben, j'en ai un en route, en fait, dans le ventre, là.
Ah, pendant que okay. je te sens concerné par le sujet.
Ouais. Bah oui, forcément. Donc, et puis même, tu vois, autour de moi, beaucoup de femmes en ont. Donc, non, c'est vrai que je trouve que là, il y a autant de points de vue positifs. Enfin, il y a autant de positifs que de négatifs dans le fait qu'ils aient un accès direct, par les réseaux sociaux, par l'information, partout.
Tout à fait.
À des choses, tu vois, qui peuvent à la fois leur permettre de faire des grandes choses, de s'accaparer des sujets importants, tout comme les angoisser.
Ouais, donc, absolument. Raison.
Voilà. Les deux dernières questions, Thomas, c'était un coup de cœur et un coup de gueule. Alors, tu n'es pas obligé d'en avoir, mais le coup de cœur, ça peut être tout ce que tu veux. Une série, un bouquin, un film, une rencontre, peu importe, une entreprise, une inspiration, et puis le coup de gueule, bah, je te laisse carte blanche.
Alors j'ai.
En sachant que tu veux prendre quelques minutes pour réfléchir.
Ouais. Non, mais j'ai deux choses qui me viennent en tête, deux coups de cœur. Le premier, c'est entrepreneurial, et en fait, c'est mon meilleur ami d'enfance qui s'appelle Timothée Ligné, qui a monté une boîte qui s'appelle The Braderie.
Génial. Ben, j'y étais hier soir, c'est fou. Ah bon? J'ai acheté des trucs de son
similaire. Écoute, c'est mon coup de cœur.
C'est génial, ce truc.
Bah ouais, alors, ils font des ventes privées de marques sympas sur Instagram. Et c'est mon coup de cœur. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai découvert hier puisque je le suis depuis le début, mais je sais que son activité explose et il le mérite. Et je trouve que c'est génial de voir son meilleur pote réussir voilà, en connaissant le personnage avec toute la genèse, etc. Bon, première chose.
Tu te féliciteras de ma part, franchement, ouais. Parce que okay. Je trouve ça génial. Et puis, de se mesurer, tu vois, à des ventes privées ou à des trucs comme ça, faut y aller. Hein.
Ouais, bah écoute, oh. tu prêches converti.
Très bien.
Et
fort.
Deuxième coup de cœur, c'est plus culturel. C'est un groupe qui s'appelle Jafna. J-A-2-F-N-A.
Ouais.
Qui fait de la musique plutôt électronique, je dirais, mais c'est assez accessible, on va dire. Et,
okay.
Et je trouve, là, je me suis mis un live juste avant le podcast pour travailler et ça t'emmène, ça te fait voyager à défaut de pouvoir le faire physiquement. Donc voilà,
génial.
C'est ça que ça me fait penser.
Super. ok, je vois, je suis en train de les regarder sur Insta.
Ouais, c'est trop cool.
Jafna Studio, c'est ça, Music Studio.
Ouais, je pense, Jafna Music. Ouais,
ok, cool.
Et un coup de gueule, un coup de gueule. Une bonne question, ça. Jafna me fait penser au fait que ça fait longtemps que je suis pas allé voir un concert et je suis pas allé sortir, donc
ouais,
un coup de gueule pour personne à part ce petit pangolin qui a foutu la pagaille. Mais je me dis que j'aimerais bien retrouver mes amis dehors, sortir et faire autre chose que des soirées chez soi, quoi.
Je te comprends bien. Voilà. Je te comprends. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Thomas, avant qu'on se quitte?
Non, mais écoute, j'ai bien apprécié l'échange. C'est cool.
Ouais, ça m'a fait plaisir.
De passer un peu de temps avec pas d'écran sous les yeux et juste discuter, quoi, tranquillement.
Ouais. Eh ben, écoute, je te souhaite encore plein d'interviews et un très beau succès avec Respire à vous deux. Bravo pour ce que vous faites et puis bonne route, Thomas.
Ben, merci beaucoup. Salut Estelle.
Ciao.
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode.